d'être capable d'être leur propre avocat. Il ne faut pas toujours se laisser tout dire et il faut aussi se renseigner, comprendre sa maladie pour pouvoir se battre plus efficacement, ne jamais perdre courage et avoir envie de se battre.
Bonsoir Catherine.
Bonsoir Nathalie. Merci beaucoup de m'avoir ici.
Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, je rappelle la ligne éditoriale du podcast Mine de Rien pour les personnes qui le découvriraient avec toi. En fait, je pose à mes invités une question que je me suis posée moi-même, qui est la suivante. Peut-on changer, peut-on évoluer en restant fidèle à soi et à ses valeurs? Ma question fétiche, qui est une façon de se présenter un petit peu différente, un peu décalée, quel pourrait être ton animal totem?
Eh bien, écoute, je te dirais le chat, parce que le chat, finalement, est assez indépendant, mais en même temps, il est très câlin et il vient vers les gens quand il le souhaite. Mais il est également très intuitif, il ressent les émotions des gens et il sait d'une certaine façon les apaiser et apaiser les chagrins. Je ne sais pas si tu as un chat.
Oui, j'ai un chat.
Certains éditeurs ont un chat, ils sauront me dire s'ils éprouvent la même chose, mais... Mais chaque fois que j'ai pu avoir le moindre, certaines difficultés, entre autres en étant malade à un certain moment, mon chat venait vers moi, me faisait des câlins et ça faisait beaucoup de bien. Donc je dirais le chat, mon mari te dirait à l'inverse que je serais plutôt Saint-Bernard avec mon tonnet de rhum parce que je considère que c'est finalement un peu aussi ce que je fais en étant chat, en quelque sorte. C'est vrai que j'aide beaucoup de gens. Mais pour ça, il faut percevoir leurs émotions et être un peu intuitif. Donc, on fait un chat.
Pourrais-tu nous dire en quelques mots, qui es-tu, Catherine Lamy?
Alors, je suis beaucoup de choses. Est-ce que je suis française et américaine, ce qui me définit beaucoup, effectivement, avec mes deux passeports. Et puis, j'ai une vie, en fait, en France, une première vie en France. J'ai grandi en France, j'ai fait mes études en France, dans une superbe école de commerce à Lille, à l'EDEC. Et puis, je me suis mariée avec un Français. Nous avons eu nos trois enfants. J'ai une superbe carrière professionnelle là en France, puisque j'ai eu la chance de travailler dans le luxe. Je travaillais pour LVMH, j'ai travaillé pour Givenchy, à l'époque où Monsieur Givenchy était encore là, sur le point de partir. J'ai vu la passation avec Galliano. J'ai travaillé chez Champagne Pommery. Et j'ai travaillé au Bon Marché. J'ai travaillé chez Dior. Donc, de fabuleuses expériences. Et puis, là, mon mari a été muté aux États-Unis et j'ai entamé une nouvelle vie. Ça fait un petit hic dans mon côté féministe indépendant, mais je l'ai suivi. Et puis, en fait, initialement, c'était pour 3 ans, donc ça paraissait logique. Et puis finalement, on est resté là-bas. Ça va faire maintenant ça va faire 21 ans qu'on est là-bas.
Ah oui, c'est une belle tranche de vie.
Voilà. Alors là, c'était plus avec un emploi, je dois reconnaître, ou du moins pas dans les premiers temps. Les enfants étant le système scolaire américain étant très différent, les enfants finissent très tôt, donc il faut les récupérer et c'était trop compliqué de pouvoir avoir un travail intéressant. Avec ces contraintes-là. Donc, je me suis beaucoup concentrée sur mes enfants. J'ai fait beaucoup de volontariat à droite et à gauche pour un arboretum, pour l'école, les écoles. Enfin, j'ai organisé des choses assez incroyables dont je suis encore toute fière. Et puis, je me suis surtout occupée de l'éducation française de mes enfants parce que pour moi, il était indispensable que mes enfants restent français. Donc, ça peut être aussi bien la Marseillaise que de savoir compter dans le système métrique, que connaître en mathématiques et en géométrie toutes les définitions, les axiomes, etc., etc., que même de savoir parfaitement sa grammaire et de parler en français absolument parfaitement. J'avais tendance à... Je ne comprenais pas quand mes enfants me parlaient en anglais. Ce qui était très étrange, puisque dès qu'on passait la porte, je comprenais absolument, et dès qu'on avait quelqu'un, un anglais, un américain qui se joignait à nous, je comprenais toujours parfaitement l'anglais. J'ai mes trois enfants qui ont, d'une part, qui parlent très bien français, qui sont restés français effectivement là, mais maintenant qui sont tous les trois devenus américains aussi, chacun par sa propre initiative, puisqu'on est devenu américain relativement récemment, et qui sont en train de faire des superbes études, c'est-à-dire que les trois sont dans des Ivy League américaines, Donc mon mari me dit, est-ce que tu te rends compte quand même que tu as plein de mères qui tueraient pour avoir réussi ce que tu as réussi avec les enfants? Je dirais que pour moi, l'important, c'est qu'ils sont heureux. Ils sont bien dans leur peau. Ils sont heureux dans leur job pour les deux aînés et tellement à l'aise dans ses études pour le troisième que je suis vraiment contente de ce que j'ai fait finalement. Et que je me dis, bon, j'ai peut-être pas fait la carrière avec les dents qui rayaient le parquet comme tout le monde était persuadé quand j'étais à l'évêque, mais bon, une autre type de carrière.
Alors après, j'ai une question que j'aime bien poser aux femmes, c'est quelle est l'audace dont tu es la plus fière?
Il y en a beaucoup. En fait, je suis quelqu'un qui a pas mal de culot. Quand je pense que le résultat peut motiver l'action. Donc, c'est vrai que j'ai décroché en fait souvent des choses avec en mettant beaucoup de culot. Mon premier stage chez Chanel, je l'ai décroché en disant au directeur de la communication que je voulais l'interviewer sur une étude, ce qui était vrai. Sauf qu'à la fin, je lui dis en fait, je suis pas venue pour ça. Ce que je veux, c'est un stage. Il m'a regardé, bluffé. Il m'a dit, écoutez, vous avez vraiment un côté commercial, c'est clair, donc il n'y a pas de problème, je vous aide. Et voilà. Par la suite, j'ai pu rentrer chez Givenchy, en fait, justement, parce qu'à une réunion d'anciens, j'ai foncé vers le directeur de Givenchy en lui disant, écoutez, je vais vraiment travailler pour vous. Il m'a regardé, il m'a dit, écoutez, mademoiselle, il y a plein de gens qui me disent ça tous les jours. Je lui ai dit, oui, mais moi, c'est différent. Vous allez voir, je peux faire vraiment des super choses pour vous. J'ai eu de la chance, beaucoup d'anciens, effectivement, de sa promotion me connaissaient, puisque je m'occupais beaucoup des anciens quand j'étais à l'évêque. Et je lui ai envoyé mon CV le lendemain, je l'ai même amené. Et 2 jours après, il m'a rappelé en me disant, écoutez, votre profil peut nous intéresser, venez me voir. J'y suis rentrée. Et c'est comme ça que je suis rentrée chez LVMH. Et plus dernièrement, ce qui est devenu aujourd'hui un peu mon métier et ma passion, c'est que, en fait, j'ai souffert d'un cancer, alors que c'était encore très récent, qui était, j'en reviendrai plus tard, mais diagnostiqué, heureusement, relativement rapidement pour moi, ou du moins que j'ai diagnostiqué relativement rapidement, et j'étais très particulièrement choquée de la façon dont finalement les patients n'étaient pas suffisamment aidés par les médecins. J'ai appris par ma propre endocrino qu'il y avait un congrès qui réunissait tous les médecins endocrino, non, pas que le endocrino, enfin tous les médecins chargés de ce cancer qui s'appelle le adrénocortical carcinoma. C'est le nom typique. En français, on dirait cortico-surrénalome ou cancer des glandes surrénales, cancer surrénal. Et en fait, j'ai appris qu'il y avait une réunion qui se passait à Paris, qui réunissait tous les experts mondiaux. Alors, pas à Paris, pardon, à Clermont-Ferrand, en France. Donc, j'ai appelé le professeur en charge de ça. Je lui ai dit, écoutez, alors, j'ai passé les barrages des secrétaires en me disant, j'ai appelé des États-Unis, j'ai appelé machin. Et j'ai dit au professeur, écoutez, voilà, il vous faut des patients. Donc, voilà, je vais venir. Et je pense qu'il est resté un petit peu, il n'a pas su quoi dire. Il m'a dit, écoutez, ça. Il savait plus quoi dire. Il m'a dit, mais je ne peux rien payer pour vous. Ah, j'ai dit, mais je ne vous demande rien de payer. Moi, je viens. Voilà. Ah bon? Peut-être que je pourrais vous inviter pour le dîner. Je dis, mais je ne vous demande même pas ça, professeur. Je veux simplement être là. Ah bon? Bon, d'accord. Je vais demander de passer ma secrétaire pour qu'elle prenne vos informations. Voilà. C'est un peu le genre de choses où mes enfants se disent parfois, maman est prête à tout.
Là, il y avait un enjeu. Il y avait un enjeu pour vous.
Oui, un enjeu.
Tu pourrais peut-être en profiter, peut-être pour parler de la création de l'association,
Oui. Alors
j'imagine.
l'association, en fait, j'ai souffert, j'ai eu des tas de problèmes de santé que j'ai personnellement assimilés pendant un bon bout, tout ce qui était ménopause. J'arrivais à 49 ans et j'avais ces symptômes depuis quelques années. J'ai pris du poids, je perdais mes cheveux, j'avais des poils faciaux. Voilà, enfin, plein de petites choses comme ça, effectivement, puis la prise de poids devenait alors exponentielle. Plein de petites choses comme ça qui m'ennuyaient énormément, mais en fait, où j'étais remise à chaque fois en place par mes médecins, qui me disaient, mais non, c'est la ménopause, des règles aussi. Donc, bon, j'étais assez ennuyée. J'ai eu, par exemple, je me suis plainte d'une voix qui devenait de plus en plus grave. On m'a dit, mais. L'otorhino qui m'a vu m'a dit, écoutez, madame, buvez un peu moins de café, puis parlez-moi avec vos copines au téléphone. Ça C'est le genre de choses qui vous casse.
C'est méprisant, puis, ça.
Ouais, c'est très méprisant. Et en fait, c'est le genre de choses qui casse tellement qu'après, on n'ose plus en parler. Donc, voilà, j'ai attendu encore quelques mois. Et puis, un jour, mon médecin traitant m'a dit, « Écoutez, il faut quand même vérifier si vous êtes vraiment ménopausée. Je vais vous envoyer chez chez une gynéco. » Pardon, j'allais dire le mot américain. Et il s'est avéré qu'en fait, je lui ai dit, « Écoutez, faites-moi la prise de sang d'abord. Sans quoi, je vais arriver là-bas, on va tourner en rond. » Donc, il m'a fait la prise de sang. Je lui ai dit, « Mais rajoutez-moi tant que vous êtes la testostérone. » Regardez, écoutez, madame l'ami, non, j'insiste, docteur, vraiment, c'est important pour moi. Bon, c'est vraiment pour vous faire plaisir, vous n'avez pas de testostérone, vous êtes une femme. Mais il s'est avéré que j'avais plus de testostérone que mon mari. Donc, quand je suis arrivée, la gynéco a d'emblée on a fait un examen, éliminé la notion de polype ovarien. Et puis, elle m'a dit, c'est peut-être un problème avec vos glandes adrénales, enfin, vos glandes surrénales. Sur le parking, j'attendais de parler avec ma sœur. Donc, j'ai googlé glandes surrénales, testostérone. Je suis tombée sur maladie de Cushing, enfin syndrome de Cushing plutôt. Maladie de Cushing, c'est quelque chose de différent. Et là, j'ai compris ce que j'avais. Donc, j'ai vu mon endocrino très vite. J'ai appelé 5, hein, j'ai pleuré avec la secrétaire pour avoir un rendez-vous le plus vite possible. J'ai eu une annulation 2 jours plus tard. J'ai fait des pieds et des mains dans différentes quand je suis partie faire les 4 scans, et puis tout ce genre de choses pour avoir les résultats immédiatement, en faisant même des sittings dans les salles d'attente sous prétexte que je voulais avoir le rapport immédiatement, ou du moins le CDO immédiatement. Et effectivement, on m'a envoyé rapidement voir une spécialiste qui m'a dit, écoutez, c'est soit un syndrome de Cushing comme vous le pensez, soit ça peut être plus grave, c'est peut-être aussi un adrénocortical carcinoma, donc un cancer de la glande surrénale. C'est un cancer très rare qui arrive sur une personne sur 1 million. Enfin, on dit une personne sur 1 million, en fait, c'est 0,8 à 2 personnes sur 1 million. Et en fait, j'étais un cas déjà très à part, puisque en fait, il s'est révélé que j'avais 2 tumeurs, une sur chaque surrénale, ce qui est très rare, le côté bilatéral. Voilà, donc la première opération a eu lieu, c'était bien un cancer. J'ai décidé de faire enlever effectivement la deuxième tumeur aussi. Et je me suis mis en fait à discuter avec d'autres patients à travers des groupes Facebook, et surtout avec une patiente française. Ce qui faisait beaucoup de bien de pouvoir expliquer effectivement les choses dans ma propre langue. Et c'est là où j'étais enragée, vert de rage, de me rendre compte à quel point en fait, moi j'avais eu de la chance parce que j'avais secoué tout le monde, clairement, et fait avancer les choses très vite. Mais il y a tellement de patients qui meurent de ce cancer parce qu'en fait, quand il est découvert tardivement, c'est-à-dire que moi, j'étais en stage 2, enfin, pardon, en un stade 2, et d'autres patients, effectivement, n'ont pas la chance que j'ai, peut-être le culot que j'ai, qui m'a peut-être sauvé la vie, de savoir remuer les médecins. Comme je l'ai dit, les symptômes sont un peu, peuvent être confondus avec tellement de choses, la prise de poids, qu'en fait, majoritairement, les patients arrivent trop tard. Et à ce moment-là, ils ne peuvent plus être sauvés parce que le cancer a métastasé un peu partout et il métastase vite. Donc, j'avais vraiment cette hargne, cette envie d'aider les autres patients. Et cette autre patiente française, Sandra, avec qui j'ai noué une amitié fabuleuse, enfin, on avait discuté pendant un bout de temps, effectivement, par WhatsApp, d'abord en s'écrivant. Et puis finalement, quand ce congrès est arrivé, je lui ai dit, voilà, il faut qu'on y aille. Il faut qu'on y aille toutes les deux. Et donc, on s'est rencontrés une première fois au mois de août pour vérifier quand même qu'une fois qu'on était face à face, on s'entendait. Et le courant est passé. Et voilà, depuis, on est ensemble. On a fait ce congrès ensemble. Sandra est arrivée à se faire inviter, elle, sous prétexte de représenter une association française. Je me suis mis à côté d'elle, puisque j'étais aussi membre de cette association. Et à la fin, on a dit, écoutez, vous avez parlé d'avoir plus de coopération internationale entre les médecins, les endos, enfin, les différents médecins endos, onco, chirurgiens, etc., les chercheurs, les pathologistes, etc. Ben, il est temps aujourd'hui que vous associez les patients avec ça. On a une standing ovation. Avec le recul, je pense très franchement qu'ils sont tous dit, elles sont mignonnes, ces petites dames-là, mais ces deux patientes, il n'y a jamais rien qui va sortir de tout ça. Le professeur allemand, le grand professeur allemand, le professeur Fosnacht, m'a dit « Non, pas du tout. D'emblée, j'ai cru en vous. » Enfin, toujours est-il que 2 ans plus tard, on s'en est sorti avec… on est arrivé, en fait, au congrès suivant, qui est lieu online à cause du Covid, avec une association de créer. Alors, non, une non-profit, mais des… Enfin, une non-profit. Une association loi 1901 créée en France parce qu'il fallait 2 Françaises, alors qu'aux États-Unis, il nous faut 3 Américains. Voilà, donc c'était plus facile. Et en fait, on avait créé notre site en 2 langues à l'époque, anglais et français, ce qui était les 2 langues les plus simples pour nous. Aujourd'hui, donc ça, c'était en septembre 2021. À partir de là, tous les professeurs sont venus vers nous en disant « C'est génial ce que vous avez fait. Attendez, je veux en avoir ma langue. » Alors, je vais vous faire rire, effectivement, le professeur allemand qui nous soutient depuis le début, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, des grands professeurs américains, nous a dit « Attendez-moi, je vous trouve quelqu'un tout de suite pour le traduire. » Le professeur italien m'a dit « Mais écoutez-moi, je ne vois personne. Pourtant, je veux l'avoir à tout prix dans ma langue. » J'ai dit « Écoutez, moi, je suis désolée, mais je ne connais personne qui peut me le faire en italien. » Il m'a dit « Mais j'y pense. Pas de problème. C'est mon fils qui va vous le faire. Il est étudiant médical. Je vais lui demander de le faire. » Donc voilà, on a eu comme ça, en fait, après, juste remarquable, c'est une professeure d'espagnol de mon fils qui m'a aidé à traduire l'espagnol, associée avec une amie que j'ai depuis le CM1. On a travaillé en fait par WhatsApp, revue bien évidemment toujours par des professionnels. Et voilà, ça a été en fait une chaîne de solidarité fabuleuse. Et le site est aujourd'hui en 8 langues, anglais, français, espagnol, italien, allemand. Portugais, brésilien, chinois et japonais. Le dernier langue qu'on a mis.
Pourquoi c'est si important que le site soit traduit dans autant de langues?
Alors, pour une raison très simple, en fait, c'est qu'il n'y a aucune ressource qui existe pour les patients pour comprendre leur maladie. Tu vas avoir des petites phrases, si tu tapes adrenocortical carcinoma, tu vas avoir des études médicales qui sont toutes en anglais et dans un vocabulaire qui est difficile à comprendre, à force de commencer à avoir l'habitude, mais pour les patients au début, c'est incompréhensible. Tu vas trouver quelques bribes, même sur le site de l'association américaine du cancer. La partie adrenocortical carcinoma, elle est hyper réduite, quoi. Enfin, tu trouves quasiment rien. Et on voulait qu'en fait les patients soient capables de comprendre les termes, soient capables d'être leur propre avocat. Et pour ça, il faut que ce soit dans leur langue. Et moi, je l'ai ressenti, si tu veux, étant française vivant aux États-Unis, quand j'ai présumé que ça pouvait être aussi un ACC, j'ai eu besoin de comprendre dans ma langue. Donc, j'ai recherché les informations dans ma langue, pas en anglais. Par exemple, sur le japonais, j'ai découvert que, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir des bracelets comme moi. J'ai effectivement un bracelet qui indique que je suis que je peux avoir un problème d'insuffisance surrénalienne à n'importe quel moment. Ce n'est pas la peine au Japon, parce que sur Tokyo initialement, puis maintenant quasiment sur l'ensemble du Japon, il y a ce qu'ils appellent les help marks. Donc toute personne qui a effectivement un problème va porter ce bracelet et va pouvoir être aidée parce que c'est d'une certaine façon enregistré. J'en apprends comme ça en permanence sur tous les systèmes de santé au monde, et il est important que chaque patient soit capable effectivement de pouvoir être son propre avocat face au médecin, et soit capable aussi d'être mis en contact avec un professionnel. Notre cancer est tellement rare que si tu n'es pas pris en charge par un professionnel, si tu vas demain voir un médecin en disant « Écoutez, moi j'ai des prises de poids, je perds mes cheveux », ce qui n'est pas toujours le cas. Pour certains, ça va être simplement effectivement une gêne, parce que la tumeur devient tellement grosse qu'elle gêne effectivement les autres organes, sans aucun autre symptôme. Donc, c'était trop important pour nous, effectivement, de pouvoir aider d'autres patients. Et en fait, on les aide aujourd'hui, malheureusement parfois certains trop tard, parce qu'ils ont été diagnostiqués trop tard et qu'ils sont venus vers nous trop tard. Mais en fait, on a de plus en plus de patients qui nous sont envoyés maintenant par des médecins eux-mêmes, parce qu'ils savent qu'on va les aider, parce qu'on va être à leur écoute. Alors, soit on les aide, pardon, je vais revenir en arrière, soit on les aide effectivement parfois à trouver des médecins, parfois à discuter avec d'autres patients. Je vais donner un exemple concret. J'ai une patiente sur Chypre qui m'a contacté en me disant « Écoutez, moi, je suis désespérée, je ne connais aucun autre patient, j'ai envie de discuter avec des patients, et puis j'ai besoin d'un médecin. » je l'ai mis en contact avec une patiente sur Malte. Et l'intérêt, en fait, elles ont toutes les deux le même problème, c'est qu'il y a tellement peu de gens sur le Rhin que ma patiente sur Malte, qui est là guérie, a pu lui l'aider à se rendre compte de savoir que finalement, il y avait des gens autour du monde, que finalement, être toute seule, ben là, sur l'île, ce n'était pas un problème. Et je lui ai trouvé une patiente, parce qu'elle était sur la partie grecque de Chypre, à Athènes. Et c'est génial, parce que le médecin, elle lui a envoyé un message en me disant « Je vous contacte par les sur ICC ». Le médecin lui a dit « Bon, si vous venez en voyage professionnel, vous me dites et je me débloquerai pour vous voir ». Et la patiente est ravie de ce médecin, elles s'entendent super bien toutes les deux. Donc,
non, mais c'est concret ce que tu expliques et en quoi l'association peut être utile aux malades. Est-ce que tu pourrais donner l'URL peut-être de l'association pour les personnes qui t'écoutent et qui voudraient vous contacter?
Bien sûr, c'est www.letscure.com.
Et sinon, on vous trouve aussi sur LinkedIn, hein, je crois. Facebook aussi.
Alors, on nous trouve sur Facebook, on nous trouve sur Twitter, on nous trouve sur. Non, on dit plus Twitter, on dit X maintenant. C'est pas moi qui gère les réseaux sociaux. Moi, je gère LinkedIn, mais pas les autres réseaux sociaux, donc je suis toujours plus mal à l'aise. On a tous les réseaux sociaux possibles et imaginables. On a donc X, Instagram et Facebook, bien sûr.
Au nom de l'association, donc au nom de letscureacc.com.
Let's Cure ACC. Pardon, okay. Pour le dire plus en français.
Et est-ce que vous avez besoin de parce qu'on profitons-en, on se fait une petite page de pub. Est-ce que vous avez besoin d'un soutien financier? Vous faites des appels aux dons? C'est sur le site de l'association?
Sur le site qui a une partie donnée. On a eu là, il y a. J'ai perdu une amie il y a quelques jours, une patiente qui m'avait été recommandée par son médecin, mais qui était devenue une amie, Marie-Christine, qui était une femme fabuleuse, et sa famille a fait un appel aux dons pour notre association, ce qui m'a beaucoup, beaucoup touchée.
Mais on a une pensée pour elle.
Oui, c'était vraiment une femme extraordinaire. Et c'est vrai que, aujourd'hui, on est un peu plus nombreux, on a été rejoint au niveau du board, du comité d'administration, par un Allemand qui apporte une ouverture différente par rapport à ce que nous étions, parce que nous étions deux filles. Le cancer peut arriver aussi sur des hommes, donc Marc est là pour le prouver. Moi, j'ai eu la chance de ne pas avoir de récurrence. Sandra a eu une opération beaucoup plus difficile que moi, puisqu'elle avait une invasion de la veine cave. On a annoncé à sa mère au moment de l'opération qu'elle allait certainement mourir et qu'elle ne le ferait certainement pas. Marc a eu un autre problème, c'est que lui, il a eu des métastases qui se sont. Donc, on apporte chacun une vision différente. Et maintenant, on a été rejoint par des volontaires qu'on appelle nos ambassadeurs, qui sont un peu partout. Des ambassadeurs qui parlent italien, italien, slovaque, chinois, japonais, bien sûr, anglais, allemand aussi, français, bien sûr, etc. Chacun avec amène une ouverture différente par ses connaissances et par ce qu'il a eu. Certains sont des malades, certains sont dans le domaine médical, certains sont dans la recherche. Donc, c'est vrai que c'est un joli pêle-mêle qui va permettre, j'espère, de pouvoir aider encore plus les patients.
En t'écoutant, là, je me dis que tu vis une aventure humaine incroyable. J'entends que c'est aussi une aventure scientifique. Est-ce que tu as d'autres adjectifs qui te viennent à l'esprit pour décrire cette aventure?
Je dirais que c'est chaque jour des découvertes, des choses fabuleuses, des découvertes humaines. Il y a ce côté lien avec les patients. Et cette volonté d'aider, mais aussi, intellectuellement, c'est passionnant. Là, mardi, j'ai eu, c'est la dernière fois que je l'ai, mais la présentation c'est un japonais qui travaille à l'université de Penn et qui est en train qui travaille pour recréer des cellules souches de glandes surrénales à partir de stem cells, de cellules, de cellules de base. C'est pas cellule de base, mais je ne sais plus. J'ai souvent l'habitude de
lire. Tu peux le dire en anglais, il n'y a pas de problème.
Je lis souvent ces articles, effectivement, en anglais, donc j'ai tout ce vocabulaire qui me vient. Donc, il y a aussi énormément de relations humaines avec les chercheurs, avec les médecins. C'est-à-dire que de plus en plus, on est On est en lien avec ces médecins, avec ces chercheurs. J'ai participé à une réunion à Boston, là, fin du mois de mai, début du mois de juin, qui s'appelait la 19e International Adrenal Meeting. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à force, on est reconnu par tous les médecins. C'est-à-dire qu'au début, on mettait un gros t-shirt, on avait un petit logo devant, puis alors un immense logo dans le dos. Et alors maintenant, on se retrouve avec... on n'a plus besoin d'avoir de logo. Parce que les médecins viennent vers nous, nous disent « Ah, Catherine, ah, Sandra, ah, Marc !» Et c'est juste phénoménal, parce que finalement, on se rend compte qu'en finalement 3 ans d'existence, même pas, puisque ce
c'est,
sera
c'est court, hein. C'est très court. Hein.
On est arrivé vraiment à faire quelque chose et à aider.
Mm. C'est une belle reconnaissance. Hein.
Mm. Ouais, quand on nous a demandé, quand on a commencé à nous demander de relire des papiers scientifiques, je peux te dire que waouh. Quand on a commencé à nous demander si on pouvait aider à obtenir des grants auprès d'organismes tels que l'Union européenne ou le Department of Defense américain, à d'écrire des lettres. La première lettre, par exemple, pour le Department of Defense américain, on ne savait pas trop, donc on l'a écrit un petit peu comme le chercheur nous le demandait. La deuxième, il n'a pas eu le grant. La deuxième, pour l'aider, on l'a changé un petit peu. On a mis un peu plus d'émotion, un peu plus de punch, je vais dire, et il a eu le grant. Et c'est une personne qui...
C'est quoi le grant ?
Pardon, la donation, je dirais la subvention, pardon, du Department of Defense, donc du ministère de la Défense américain, qui est celui qui traite les maladies rares. Et puis l'Union européenne aussi, on avait fait une demande de grant qui n'a pas marché, une demande de donation qui n'a pas marché, de subvention qui n'a pas marché la dernière fois, mais j'espère que ça va marcher prochainement.
Et en t'écoutant, je me demandais, cette audace, là, ce culot, comme tu le dis toi-même, ça vient d'où ?
De mon enfance, parce que j'ai toujours eu besoin de faire preuve de culot dans pas mal de situations. J'ai eu une enfance un peu compliquée avec des parents qui ont divorcé, beaucoup de beaux-pères et de belles-mères. Donc, je dirais qu'il fallait savoir se faire entendre et savoir parfois avancer dans la vie par moi-même. Et en aidant parfois mes parents comme si c'était moi qui les guidais plutôt que eux qui me guidaient. Donc,
D'où l'image du Saint-Bernard ?
Peut-être aussi, oui, c'est vrai. C'est vrai que...
Cette fonction d'aide, apparemment, elle te vient de loin.
Je pense que ça a toujours été ancré en moi. J'ai aussi mes deux parents étant dans le domaine médical aussi. Donc, c'est vrai que quand
j'étais
gamine...
D'accord, oui, donc tu as une proximité. D'accord.
Voilà, c'est vrai que mon père était médecin généraliste, maman était infirmière. C'est vrai que quand j'étais gamine, mes premières idées, c'était de devenir pédiatre. Parce que je voulais aider les enfants. Et puis après, je me suis dit, pourquoi pas aussi juste pour enfants, pour aider des enfants à repartir bien dans la vie. Et puis là, j'ai eu un beau-père, un homme qui a vraiment marqué ma vie, qui m'a dit, mais en fait, tu es tellement sensible que est-ce que tu vas supporter les fois où ça ne marchera pas? Les fois où tu seras vraiment toi, les mains à vouloir aider quelqu'un et ne pas y arriver. Il m'a dit, tu sais, tu as une telle capacité de communication, etc., que je te vois beaucoup plus dans le marketing et pour... Et en fait, c'est vrai que je suis partie dans les relations humaines. Il me parlait aussi de RH. Et c'est vrai que c'est pour ça que je suis partie finalement vers une école de commerce. Et
Tu reviens au domaine médical finalement.
Je reviens au domaine médical, ouais, peut-être. Entre tous mes beaux-pères et mes belles-mères, beaucoup étaient dans le domaine médical. Et ma sœur est partie elle aussi dans le domaine médical en tant que kiné. Donc, tu vois.
Et alors, quels seraient tes projets pour les prochains mois? Qu'est-ce qui te tient le plus à cœur? Est-ce que tu as des objectifs particuliers ou des ambitions particulières?
Écoute, on vient d'intégrer, donc, vient vraiment de l'association a énormément grandi depuis un an. On a envie maintenant de se développer de plus en plus parce qu'on se rend compte maintenant, c'est de plus en plus les professeurs, les médecins qui viennent vers nous en nous envoyant des patients. Donc, il est important pour nous qu'on ait de plus en plus une réponse et une capacité de parler avec les gens dans toutes les langues. Mon espagnol n'est pas très bon, en toute franchise, mais je me retrouve à parler avec des patients, des familles de patients mexicains et argentins, donc en espagnol. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je me dis qu'il va falloir qu'on trouve encore quelqu'un pour nous aider, par exemple, sur l'espagnol. Énormément de choses qu'on peut faire encore. On a vraiment besoin de se développer. Je voudrais travailler sur des conférences avec les professeurs qui nous soutiennent, faire peut-être une conférence par mois sur des sujets divers et variés, sur ces médicaments qui nous rendent malades. Je vais te faire sourire. Je, J'ai jamais perdu le sourire durant ma maladie. J'ai été tellement soutenue par ma famille et par mes amis que ça a été merveilleux. Et puis, de fait, je cherchais plutôt à faire rire, même si j'étais tellement fatiguée et souvent tellement malade, de nausées. Le médicament que nous sommes amenés à prendre pour ce cancer date des années 1950, quand on a découvert qu'en fait, les jardiniers qui pulvérisaient du DDT, le fameux pesticide cancéreux, perdaient leur glande surrénale. Donc, finalement, le médicament que nous prenons est un dérivé de DDT. Donc, comme je le disais toujours à mes amis, en disant, attends, tu sais, si tu es vraiment quelqu'un de green, de coup passionné par l'environnement, tu ne vas plus vouloir me parler. Bon, bref, ça c'était pour faire rire, mais ce médicament était effectivement très difficile pour certains patients. Et c'est bien de pouvoir aussi les conseiller en leur disant, tu vois, moi je m'en suis sortie grâce à ce médicament, voilà comment j'ai un peu pu faire. Chaque corps est différent, chaque personne va réagir différemment, mais on peut toujours donner des avis, des conseils, et puis aider les autres.
Vous faites un travail formidable et moi j'ai voulu t'interroger parce que je me suis dit que ce que tu avais traversé pouvait être inspirant pour des personnes qui sont aussi malades ou qui ont d'autres types de cancers. Et je trouve que ta façon de relater ton expérience avec lucidité et humour, avec un certain détachement, je trouve que ça peut inspirer des personnes qui peuvent se sentir un peu seules. Face à la maladie.
C'est le cas, j'en ai plein. J'ai par exemple une malade italienne qui est toute seule en Suisse, sans famille, sans vraiment amis, puisqu'elle est partie là-bas pour des projets professionnels. Et ce que j'essaie de lui dire, ce que j'essaie de faire passer, c'est qu'il faut avoir des objectifs pour après. Il ne faut pas se focaliser à maintenant. Ou alors, il faut voir en tout cas chaque jour les petites choses positives qu'on peut avoir. Ça peut être de voir une fleur, ça peut être simplement de ne pas être au malade un jour, ça peut être d'avoir un câlin de son chat, ça peut être n'importe quoi. Et ensuite, il faut surtout se projeter dans l'avenir. Ok, on est coincé pendant un certain nombre d'années. Cette jeune femme, par exemple, là, est relativement jeune, elle a une trentaine d'années et elle est désespérée de voir qu'elle qui était. Capable d'aller grimper, de faire du climbing, enfin du, pardon, climbing, ça se dit en français, ouais, enfin bref, de grimper dans les montagnes, ouais. Faire, voilà, elle est maintenant réduite à rester chez elle parce qu'elle n'arrive plus à bouger, mais en fait, je l'encourage à regarder, à faire des projets pour plus tard. Il faut vraiment se dire qu'on a l'intention de battre la maladie. Il faut surtout avoir cette mentalité de lutteuse ou de lutteur. En se disant, pétard, mais tu m'auras pas, quoi. Je vais pas me laisser faire. C'est toi ou moi, et ce sera moi. Et donc, faire des projets pour plus tard. Et là, je peux que remercier ma famille, parce que mes enfants, mon mari, ils ont été merveilleux, quoi.
Merci. Merci, Catherine, pour ton témoignage. J'espère que ça aidera les personnes qui nous écoutent. Et puis, bravo, parce que tu as une énergie et un courage incroyable.
Ben, écoute, je suis maintenant en rémission depuis 9 mois. Je me sens maintenant de plus en plus en pleine forme et avec de plus en plus cette envie encore d'aider les autres, quoi. Mais tu as raison, ça ne s'arrête pas à l'adrénocortical carcinoma, au cancer à l'ACC. C'est la même chose pour tous les cancers et je veux vraiment que si mon témoignage peut servir à quelque chose, je voudrais vraiment que tous les gens aient envie, un, d'être capable d'être leur propre avocat, mais il ne faut pas toujours se laisser tout dire, et il faut aussi se renseigner, comprendre effectivement sa maladie, pour pouvoir se battre plus efficacement, non, ne jamais perdre courage et avoir envie de se battre.
Merci.
Merci à toi. Au revoir.